Bonjour à tous, alors c'est un plaisir d'être là. Je vais faire à l'ancienne avec du papier. En venant ce matin dans le train, je lisais que la parole de Dieu est nécessaire et suffisante. Et la parole de Dieu est suffisante pour. Ça veut dire que toutes les questions qu'on se pose, elle peut y répondre, soit directement, soit indirectement. Et j'ai trouvé ça très pertinent pour la réunion de ce matin, de se dire que, quelle que soit la question qu'on se pose, Dieu a la réponse. Et c'est ce qu'on va faire ce matin, même si le mot contraception n'est pas dans la Bible. Mais loin de moi la pensée de faire une étude systématique ou thématique sur la contraception ce matin. On va ouvrir nos Bibles dans le psaume 139. Et puis on va juste louer Dieu et adorer Dieu à travers ce psaume. Et ensuite, j'ouvrirai un petit peu la discussion sur la thématique de l'Advent. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, de loin tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Mais en avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, tu vois là. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, et je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant? Que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels, eux tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Alors, le psaume 139 est avant tout un psaume de louange. Comme vous avez pu l'entendre, c'est un hymne, un magnifique hymne à l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Et je veux vraiment qu'on commence cette journée comme ça, en louant l'omniscience et l'omniprésence de Dieu, en se mettant dans cet esprit de louange, et passer un petit peu de temps juste à admirer cette présence, cette omniscience. L'auteur du psaume est littéralement subjugué par son Créateur. Et la louange... Carrément, en lisant le psaume, on a l'impression que ça elle interrompt son discours. Et ça jaillit spontanément du psaume régulièrement, le verset 6, le verset 12, le verset 14, le verset 17. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Le verset 12, dans une autre traduction, dit « Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi, la nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse, au verset 14. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Et au verset 17, combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. Et alors le psalmiste alterne ces moments de description de comment Dieu est, ce que Dieu fait, et puis de ces explosions de louanges que Dieu est si merveilleux. Et qui mérite nos louanges. Et donc, quand on lit ce psaume, et notamment sur des passages comme « Où pourrais-je aller, loin de toi » ou les versets 19 à 24 sur lesquels je reviendrai après, il faut bien garder ça en tête, c'est un psaume qui loue la présence de Dieu. David loue l'omniscience de Dieu. Donc, le fait qu'il sache tout, les versets 1 à 6 et les versets 15 et 16 aussi. David loue l'omniprésence de Dieu, le fait qu'il soit partout, à tous les endroits, les versets 7 à 12. David loue aussi la perfection de Dieu, la perfection de ce que Dieu fait, et c'est les versets 13 et 14. David loue la préscience de Dieu, le fait qu'il sache tout à l'avance, et on en reparlera un peu après. Et son infinie science, au verset 17 et 18. Et puis enfin, David loue la sainteté de Dieu, les versets 19 à 22. Ensuite, il conclut son psaume par une prière, « Sonde-moi, ô Dieu », qui rappelle un peu le verset 1, où il dit « Seigneur, tu me sondes et tu me connais », et on reviendra un peu là-dessus. Vous verrez, j'ai trouvé en étudiant ce psaume un bel écho de l'un et de l'autre. Si on résumait le psaume en 5 phrases, on pourrait le résumer comme ça. « Éternel, tu sais tout, et je te loue. Éternel, tu es partout. » Tu es lumière, je te loue. Tu m'as fait merveilleux, je te loue. Tu vois tout et tu as tout prévu, je te loue. Tu es saint, sanctifie-moi. Si vous voulez mémoriser le psaume, je pense que c'est un bon moyen de retenir les différents paragraphes. Tu sais tout, tu es partout, tu es lumière. Tu m'as fait merveilleux, tu vois tout, tu as tout prévu, tu es saint, sanctifié. Quand j'étais plus jeune et que je lisais ce psaume, c'était un peu troublant, voire effrayant, en me disant « Waouh, Dieu, il sait tout ». Quand je m'assieds, quand je me lève, quand je marche, quand je me couche, oulalalala. Dieu est partout, et même pire, quand on continue dans le psaume, au verset 7 et suivant, dit « Où est-ce que je peux aller ?» Dieu est partout, en haut, en bas, à l'est, à l'ouest, et c'est exactement comme ça que le psalmiste le dit. Tu es là, où est-ce que je peux aller, loin de toi ? Et en fait, faire une lecture comme ça, c'est faire une lecture un peu rapide, trop rapide probablement, parce que c'est oublier ce que je vous ai dit en introduction, c'est oublier tous les jaillissements de louanges qui parsèment le psaume, au verset, comme je vous ai dit, les versets 6 et 12. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi, la lumière s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Le psalmiste n'a pas peur en disant ça, en disant ces mots, c'est pas du tout cette lecture-là, c'est au contraire un émerveillement. Alors, quand le psalmiste dit au verset 7, « Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir hors de ta présence ?» La question qui vient à l'esprit, c'est « Mais pourquoi ?» Pourquoi est-ce que je voudrais aller loin de ton esprit ? Pourquoi fuirais-je loin de ta présence ? Alors, parce que justement, au verset 6, il dit « Qu'est-ce qu'il est merveilleux, Dieu ? Tout ce qu'il fait est merveilleux. Pourquoi est-ce qu'il veut fuir loin de cette présence ?» Et je pense que la réponse arrive vers la fin. Et donc, on va passer directement au verset 19, et puis ensuite on reviendra un petit peu en arrière. Mais qu'est-ce que font les versets 19 et à 22 dans ce psaume ? Je pense que vous êtes tous posé la question, et même à la lecture ce matin, j'ai dit waouh, quel choc ! Quel contraste entre combien tes desseins, odieux, sont pour moi impénétrables et puis puissent te faire mourir le méchant. Et c'est peut-être une erreur, ils ont dû se tromper, ils ont mélangé deux psaumes. Et en fait, non. En tout cas, je ne pense pas. Et on va les lire, ces versets-là, et puis on va essayer de les analyser. Parce que trop souvent, quand on lit le psaume 139, on oublie ces versets-là, et je pense que c'est important, et notamment pour notre journée aujourd'hui. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de toi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels, eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent ? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis-mêmes. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite et toujours. Alors, j'aimerais essayer de paraphraser ce que dit David ici. Et donc, c'est une interprétation, je pense, a peut-être à sa valeur. Voici ce qu'il pourrait dire. Dieu, tu es grand et parfait. Pourquoi laisses-tu vivre le méchant ? Toi qui ne supportes pas le mal, toi qui es saint, qui mets à part ceux qui sont saints pour toi, je me détache des hommes sanguinaires. Oui, Seigneur, tu es bon, mais quand même, ils sont vraiment méchants. Je les considère comme mes ennemis. Seigneur, tu ne supportes pas le mal, je veux les haïr. Sonde-moi, fais-je mal en faisant cela ? Je veux haïr le mal en eux et en moi. Toi qui sondes tout et qui me connais, sonde mon cœur, vois si je suis sur une mauvaise voie et redresse-moi si je fais fausse route. Ne me laisse pas être ton ennemi. Voici une interprétation de ce passage. Et vraiment, on voit, quand on lit ces versets, on voit la séparation entre le bien et le mal, ce désir que David a de se séparer du mal, de la sainteté de Dieu qui ne supporte pas le mal. Et c'est pour ça que dans mon petit résumé, pour moi, le dernier paragraphe, c'est « Tu es saint, sanctifie-moi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. » Tu es saint, tu es ce Dieu qui ne supporte pas le mal. Et sanctifie-moi. Je me suis même demandé, est-ce que finalement, quand David a pris sa plume pour écrire ce psaume, est-ce que finalement, c'était pas les versets 23 et 24, le premier cri, quand il a dit « Oh, Seigneur, sonde-moi, connais mes pensées, pénètre mon cœur ». montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et puis après, finalement, il dit, mais Seigneur, tu me sondes, tu me connais. Tu connais mes pensées. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche. Oh, c'est merveilleux. Et après, mais si je faisais le mal, où est-ce que j'irais? Est-ce que je pourrais aller à l'est, en haut, en bas, à l'est, à l'ouest? Mais non, t'y serais. Et pour toi, et cette dichotomie entre lumière et ténèbres n'est pas là par hasard. Pour toi, la lumière est ténèbres. Les ténèbres sont lumière, pardon. Et tu vois tout, tu connais tout, tu sais tout. Et je te loue pour ça. Seigneur, si mon cœur concevait le mal, tu le saurais. Et parce que tu es parfait, je devrais fuir loin de toi. Mais où irais-je, Seigneur? Alors dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Si mon cœur concevait le mal, tu le saurais. Alors sonde-moi. Et dis-moi si je suis sur une mauvaise voie. Dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Cette voie prescrite depuis toujours, c'est cette voie prescrite par Moïse depuis bien longtemps. Seigneur, dirige-moi sur cette voie. Alors, est-ce que c'est un réconfort pour vous que Dieu sache tout? Ou est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est troublant de se dire que Dieu sait tout? Est-ce que vous vous sentez rassuré par la phrase « Tu discernes tout ce que je pense »? Tous mes chemins te sont familiers. Ou est-ce que vous vous sentez persécuté, observé, culpabilisé? C'est pas évident, hein? Ça dépend de ce à quoi on pense. Mais voilà, est-ce que comme de la bouche de David, ce fait que Dieu sache tout et voit tout procure de la louange de votre part, ou plutôt du trouble? Tu sais quand je mange, tu sais quand je dors, si je vais aux toilettes, tu es là, et dans le lit conjugal, tu vois. Est-ce que vous êtes rassuré de ça? Est-ce que vous êtes gêné? Le psalmiste, lui, est transporté de louange. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime que je l'étais. Alors, je voudrais vous partager, moi, pourquoi c'est ce que c'est un réconfort pour moi. Et puis, je vous laisserai faire votre chemin avec Dieu et puis voir comment est-ce que vous pouvez vous approprier ça. C'est un réconfort pour moi que Dieu sache tout et qu'il m'accompagne aussi aux toilettes, parce que ça me rappelle que c'est lui qui m'a créé comme je suis, avec mes besoins, avec ses besoins. Ça me rappelle que je suis humain, que j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'évacuer aussi. Et il m'accompagne dans ma faiblesse. Pensez que quand je dors, je perds mon temps, c'est méconnaître les besoins que j'ai, et que si on doit dormir un tiers de notre vie, Dieu nous a créés comme ça, qu'il faut respecter ça, et s'en remettre aussi à lui, pour dire, Seigneur, tu m'as créé comme ça, je reconnais mon besoin de dormir, et voilà, je l'accepte. Ça n'a pas été facile pour moi, ça. J'ai toujours pensé que dormir, c'était une perte de temps. Mais voilà. Non, c'est un besoin que Dieu m'a créé en moi, et voilà, il prend plaisir en moi, même dans ces besoins-là, de manger, de dormir, d'aller aux toilettes. Il prend plaisir en moi pour peu que je fasse selon ce qui a été prescrit pour moi depuis toujours. La deuxième raison, c'est que le fait que Dieu soit partout, c'est en fait Dieu ne peut pas m'abandonner, même s'il voulait, parce qu'il est là. Donc, en tout cas, même si moi je voulais, il ne peut pas m'abandonner. Et lui, il ne peut pas, tout simplement, parce qu'il est partout. Une troisième raison, c'est que, comme David, sa présence, savoir que son savoir à lui, pardon, et sa personne sont hors de ma portée, et qu'il est digne d'être adoré pour cela. Le fait que Dieu soit partout, au même moment, au même endroit, enfin, partout en même temps, partout à tous les instants, ben, c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir, parce qu'on est humain, on est limité, on n'est pas... on est à un endroit, à un seul endroit, à un seul moment, et ben ça me force, ça force le respect, et voilà, ça produit la louange en moi, comme David l'a fait. Merveilleux savoir, hors de ma portée. Ça m'encourage aussi à marcher dans la droiture, de savoir que Dieu est là. Paul disait que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ben, pourquoi ? Ben, parce que Dieu est là aussi. Et ça m'encourage à dire comme David, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mes pensées. » Et regarde si je marche sur une mauvaise voie. Et ça, c'était avant la croix. Déjà, c'est super. Et après, nous, on est après la croix. Et on a cette promesse dans Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à ce que je revienne. Et croire que Jésus est vivant avec nous, c'est un acte de foi à sa présence, à côté, autour et au-dedans de moi. C'est avoir confiance que je suis en sécurité face à la mort, face au danger, face à la menace du péché, face à mes tentations, face à la menace de moi-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne mourra pas, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas en danger. Et ça veut dire que je suis en sécurité, parce qu'il est là. Il y a un reporter qui faisait une interview à un chrétien et qui lui a demandé un jour « Si Jésus revenait maintenant et se tenait derrière vous, que feriez-vous ?» Et le chrétien répond « Mais monsieur, il est derrière moi. » Et quand j'ai vu ça, en plus j'avais pas pensé à cette réponse là et punaise, qu'est-ce que j'ai encore des trucs à apprendre, mais à part ça, mais c'est génial, Jésus est là, c'est pas un mythe, c'est pas une espérance, non, il est avec nous, il nous accompagne. Et ça change tout, quoi. Ça change tout. Et tout ce qu'on a dit avant à propos de Dieu, c'est encore plus vrai, c'est encore plus profond, parce que maintenant, on est après la croix. Et donc, l'auteur qui racontait cette histoire-là dit que dans sa vie, il a noté une tendance à pencher pour ce qu'il appelle l'inconscient du ressuscité présent. Une tendance à exclure Jésus de certaines activités, de certaines amitiés. Et ce qu'il a appelé l'agnosie par inattention. Donc on oublie que Jésus est là, et du coup finalement notre vie n'est pas impactée par lui. Et donc ça demande un peu de discipline, de se rappeler que l'invisible est là, avec nous, l'invisible est à côté de nous, de la discipline de prendre conscience que Christ ressuscité est vraiment là, et ça c'est intimement lié à notre passion pour lui. La présence de Christ avec nous est rassurante face à la mort, au danger, et même à la menace de moi-même. Nul ne la ravira de ma main, a dit Jésus. Alors, je n'ai pas oublié qu'on était à la journée GBU et qu'on était censé parler de d'IVG et de contraception. Et je vais revenir un petit peu sur les versets 13 à 16. Même si, comme j'ai essayé de vous le montrer, c'est probablement pas ça l'objet du psaume, ni l'intention du psalmiste. Verset 13. « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Alors je l'ai déjà dit, le psalmiste loue la perfection de Dieu. Ce que Dieu fait est merveilleux. Il a pris le temps de travailler dans le secret, mais lorsque c'est révélé, c'est tout à sa gloire. Le respect de la création et de la vie est enseigné partout dans toute la Bible. Et ici, on en voit un petit aperçu, avec un indice de pourquoi est-ce que c'est important de respecter la vie. Parce que ce que Dieu prend le temps de faire est merveilleux. Et peut-être aussi, c'est un petit indice de la vie. Ça ne commence pas à la naissance. Ça commence dans le sein maternel parce que Dieu a commencé à faire des choses merveilleuses. Et même peut-être avant, puisque dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Ces versets parlent aussi de mon identité en tant que créature. Et en tant que chrétien, on a encore plus, en tant que fils de Dieu, mais là, en tant que créature, je suis une créature merveilleuse. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et ça se voit, je le reconnais. Je suis créé en l'image de Dieu. Et puis le psalmiste loue la préscience de Dieu. Dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Si vous ne savez pas c'est quoi la préscience, voilà. C'est ça. Ce n'est pas une prédétermination, mais c'est Dieu sait en avance tout ce qui va se passer. Ça n'enlève aucune responsabilité à l'homme. Ça, c'est bien clair. La preuve, c'est la fin du psaume. C'est « Garde-moi, conduis-moi sur le sentier ». Et Dieu en réserve pour nous une multitude de bonnes œuvres qu'il aimerait que nous pratiquions et qui sont inscrites dans son registre. Alors, qui sommes-nous pour déterminer les œuvres de quelqu'un, d'autre, les jours de quelqu'un d'autre? Je voudrais vous laisser sur 5 points de réflexion autour de la contraception qui peut-être bouscule ou sont bousculés par des principes bibliques. Ce sera pour la table ronde cet après-midi, mais voilà, je vous les dépose là ce matin, comme ça on aura le temps d'y réfléchir. Ma place de créature est où être moi-même mon propre Dieu. Si chacun des jours de chacun sont prévus, inscrits dans le registre de Dieu, n'est-ce pas me faire Dieu de décider combien d'enfants je vais avoir et quand est-ce que je vais les avoir? Le Dieu qui pourvoit, El Jireh, c'est le Dieu en qui nous croyons, est-ce que ce n'est pas douter de la providence de Dieu que de limiter sa progéniture? Si Dieu pourvoit, je peux en avoir autant qu'il veut que j'en ai. Est-ce que c'est pas douter de la bonté de Dieu que de programmer sa progéniture ou de la limiter d'elle? Si Dieu est bon, le nombre d'enfants que j'ai sera le bon et ce ne sera pas une malédiction d'en avoir. Un autre principe, l'orgueil de la vie. Est-ce que que ce n'est pas de l'orgueil de penser a priori être fécond et de prendre un moyen de contraception avant même de savoir si on est fécond ou stérile? Et puis, enfin, l'amour fraternel. Comment est-ce qu'on vit en communauté la stérilité de certains couples et la contraception d'autres? Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours.